Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgaard pour ce podcast. Cette semaine dans Escale, nous revenons sur la première journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, célébrée le 7 juin dernier. Avec Catherine Bessy, spécialiste en matière de sécurité sanitaire des aliments à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous verrons pourquoi la sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous.
Des fromages au lait cru ont provoqué la mort d'une dizaine de personnes.
Ce sont plus de 200 tonnes de contaminés qui sont arrivées jusqu'en France.
Que faut-il penser de ce nouveau scandale autour de la viande de cheval ?
Chacun est en droit d'avoir accès à une nourriture sûre, nutritive et suffisante. Or, aujourd'hui dans le monde, près d'une personne sur 10 tombe malade après avoir consommé des aliments contaminés. Si la nourriture est malsaine, les enfants ne sont pas en mesure d'apprendre, les adultes ne sont pas en mesure de travailler et aucun développement humain ne peut avoir lieu. Pour cette première journée internationale, toutes les parties prenantes ont été invitées à renforcer la prise de conscience sur la sécurité sanitaire des aliments et à souligner que chaque acteur des systèmes alimentaires a un rôle à jouer. Catherine Bessy.
Cette journée, en fait, a été établie pour attirer l'attention de tous sur cette question de la sécurité sanitaire des aliments, parce que bien souvent, c'est en fait complètement ignoré dans les questions de développement. On a tendance à penser que l'accès à la quantité prime sur la question sanitaire. Et en fait, les deux sont liés sur les questions de développement. C'est aussi de stimuler des idées et de la créativité, justement, de la part de tous les acteurs pour prévenir, détecter et gérer les risques sanitaires sur les aliments en fonction du rôle qu'ils jouent dans la chaîne alimentaire.
Donc justement, quels sont les effets d'aliments contaminés sur notre personne, sur l'être humain ?
Alors, de façon immédiate, on va dire des effets aigus qui sont bien connus et qui peuvent être, on va dire, de bénin à beaucoup plus important. Ben, on a tous en tête les diarrhées, les vomissements qu'on peut avoir. Ça peut être bénin, mais ça peut être beaucoup, beaucoup plus grave aussi. On peut aboutir, dans certains cas, à la destruction de certains organes, par exemple avec le syndrome hémolytique urémique. Et donc là, c'est vraiment les reins dont la fonctionnalité est totalement compromise. Mais on a aussi des maladies qui sont, on va dire, chroniques, qui résultent, par exemple, de l'accumulation de métaux lourds dans les tissus qui proviennent de la chaîne alimentaire parce qu'ils ont contaminé l'environnement dans lequel les denrées étaient produites, ou bien des toxines qui sont produites par des moisissures comme les aflatoxines qui peuvent nous provoquer des cancers du foie par exemple, ou bien on a aussi récemment parlé des perturbations du système endocrinien par certaines molécules chimiques notamment. Donc tout ça peut entraîner des effets à court et à moyen terme. Et par ailleurs, on va dire ce qu'on met aussi en relief de plus en plus souvent, c'est l'interaction entre des aspects, des problématiques de type nutritionnel, du type malnutrition chronique, déficit de croissance, etc., justement par la contamination d'aliments avec certaines toxines, etc., et d'où le lien entre la sécurité sanitaire des aliments et puis la sécurité alimentaire, c'est-à-dire les problématiques de malnutrition chronique ne sont pas que dues à des problèmes de quantité d'aliments, mais aussi à certaines contaminations des aliments.
Et donc, sait-on les raisons de ces contaminations et cela se passe quand exactement ?
Dans la chaîne alimentaire, chaque maillon compte et c'est le maillon le plus faible qui va en fait, on va dire, provoquer la rupture de la chaîne. Et les problématiques de sécurité sanitaire, elles naissent par exemple de défauts d'hygiène dans les préparations, que ce soit au niveau des entreprises de préparation alimentaire, des restaurants ou à domicile chez le consommateur. Et là, c'est des problématiques par exemple virales, bactériennes, le développement de moisissures qui entraîne la production de toxines. Mais ça peut aussi être des contaminations par des substances naturelles qui sont présentes dans l'environnement. Ça peut être au stade de la production agricole, par exemple. Ça peut aussi être dans la transformation industrielle, par exemple des contaminations par l'huile qui est utilisée dans les machines qui produisent les aliments. Mais ça peut aussi être l'utilisation inappropriée d'intrants ou de produits dans le système de production. Par exemple, je pense à des résidus trop élevés de certains pesticides qui deviennent dangereux à partir du moment où on dépasse un certain niveau de résidus dans les denrées, ou bien l'utilisation de substances non autorisées dans la préparation des aliments, des additifs qui sont interdits, ou bien dans des quantités qui sont bien supérieures à celles pour lesquelles leur toxicité avait été évaluée et une autorisation avait été délivrée. Donc, Donc c'est vraiment à toutes les étapes et c'est pour ça que tous les acteurs doivent être mobilisés pour pouvoir jouer leur rôle de façon à la fois de prévention, de gestion et de détection des problématiques sanitaires.
Et a-t-on des chiffres justement de ces contaminations des aliments pour cette sécurité sanitaire ?
Oui, alors il y a un impact qui est, on va dire, de deux ordres. Il y a l'impact en termes de santé. Et là, je pense qu'il faut saluer le travail qu'a fait l'OMS récemment, qui a publié cette étude très intéressante sur l'impact des maladies d'origine alimentaire. Et on se rend compte qu'en fait, c'est 600 millions de cas par an, notamment en 2010, qui ont été, on va dire, causés par l'alimentation. Donc c'est en fait une personne sur 10 pratiquement qui tombe malade chaque année à cause de l'alimentation. Et c'est quand même 420 000 personnes qui en meurent chaque année. C'est pas banal. Et puis enfin, il faut quand même dire aussi que sur ces 420 000 personnes, un tiers sont des enfants de moins de 5 ans, alors qu'ils ne représentent que 9% de cette population. Donc les dangers ou les risques qui sont derrière ces maladies, donc ce sont des virus, des bactéries qui causent des maladies diarrhéiques, et ça c'est quand même 550 millions de cas par an et 230 000 morts. Donc c'est là aussi vraiment important. Et puis il y a aussi des coûts financiers qui ont ultérieurement un impact sur le développement des pays. Et là, c'est la Banque mondiale qui a sorti une étude très intéressante qui montre que dans les pays à revenus moyens ou bas, ce sont à peine plus de 95 milliards de dollars qui sont perdus en termes de productivité par an. Et c'est 15 milliards de dollars de dépenses médicales. Donc je crois que c'est important de garder en tête que c'est à la fois de la santé, mais aussi du développement économique.
Des pays, donc cela touche vraiment tous les pays du monde, n'est-ce pas ?
Alors oui, tous les pays ont à affronter des problématiques. Maintenant, ces problématiques, elles vont varier en fonction des aliments consommés, des modes de production. Donc, si on ne peut pas exclure, on va dire, une zone du globe des problématiques de sécurité sanitaire, par contre, il y a quand même des zones qui sont plus durement touchées. Et là, les études ont montré que c'est l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et le Proche-Orient qui sont parmi les régions les plus affectées.
Et c'est dû à quoi ? C'est parce qu'il y a moins de réglementation ?
Effectivement, vous faites allusion à une partie des outils qui sont là, qui sont disponibles pour pouvoir lutter contre ces problématiques de sécurité sanitaire. Donc, c'est en particulier des systèmes nationaux de contrôle. Donc, ce sont des systèmes qui sont gérés par l'État, qui sont là pour à la fois détecter les problèmes de sécurité sanitaire à affronter. Ils sont là pour aussi contrôler les conditions de production, de vente, de distribution, etc., des aliments. Ceci dit, ces systèmes, ils sont là, on va dire, en tant que vérification de ce qui se passe, parce que la responsabilité première pour la sécurité sanitaire des aliments, elle est avec les producteurs. Quand je parle des producteurs, je vous parle de tout type de producteurs, c'est-à-dire les producteurs agricoles, parce que ça commence là, que ce soit des éleveurs ou des agriculteurs, puis ensuite les transformateurs, c'est-à-dire les préparateurs de produits alimentaires transformés, mais c'est aussi les transporteurs, ceux qui revendent, la vente au détail, les restaurants, etc. C'est là où la responsabilité première se situe, parce que c'est eux qui sont tous les jours aux commandes et à savoir très bien ce qu'ils font pour produire des aliments. Et bien souvent, dans les pays en particulier en développement, le niveau de connaissance, le niveau d'information, le niveau d'outillage des producteurs n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Et puis aussi, il y a la problématique des consommateurs, parce que les consommateurs ont aussi leur rôle à jouer, et les consommateurs, ils doivent être conscients et informés des conséquences de leur choix. En particulier, il faut consommer les aliments tels qu'ils ont été conçus pour être consommés. Donc, par exemple, si vous avez des aliments qui ont été conçus pour être consommés cuits et que vous les consommez crus, en tant que consommateur, c'est votre choix, mais les risques auxquels vous vous exposez ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, l'autre responsabilité des consommateurs, c'est aussi de stocker, préparer les aliments dans des conditions d'hygiène appropriées, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de recontamination qui se passe à domicile. Et puis, je dirais qu'au-delà de tout ça, il y a quand même une responsabilité après collective, qui est une responsabilité d'interaction entre tous ces acteurs, que ce soit les associations du secteur privé, les associations de consommateurs, la recherche, les organisations internationales, les organisations régionales, les États, pour ensemble mettre en commun leurs connaissances et puis décider d'actions concertées, chacun à leur niveau, pour que les choses progressent.
Protégez-vous et protégez votre famille contre les maladies que l'on peut contracter à la maison. Les règles sont simples à appliquer. Voici vos 5 clés pour des aliments plus sûrs.
Alors, il faut le lavage des mains, par exemple, avant de manipuler des aliments. Les aliments qui doivent être gardés au frais doivent être stockés au réfrigérateur. Ou alors, on sait que les contaminations bactériennes, elles se font dans une plage, on va dire, au-delà de 5 degrés et en dessous de 60-65 degrés. Donc, si on tient au chaud les aliments, là aussi, il ne va pas y avoir de croissance bactérienne. Après ça, il faut éviter les contaminations croisées. Donc, par exemple, si vous mélangez de la viande crue avec des légumes que vous allez manger en salade, etc., là, c'est vraiment la source des contaminations. Donc, tout ça, ça fait un petit peu partie de ce que je disais avant, traiter et préparer des aliments, les stocker, les manipuler de façon correcte pour éviter qu'à la maison, eh ben, la situation ne s'empire.
Les producteurs sont les premiers responsables de la sécurité sanitaire des aliments que vous achetez. Mais vous pouvez vous protéger et protéger votre famille contre les maladies contractées à la maison en appliquant les 5 clés pour des aliments plus sûrs. Utilisez-les.
Donc, que fait la FAO justement pour aider à respecter cette sécurité sanitaire des aliments?
La FAO a plusieurs types d'actions. D'abord, on abrite avec l'OMS une commission mixte qui s'occupe de justement proposer des normes alimentaires qui protègent la santé des consommateurs tout en permettant un commerce des aliments qui permet le développement économique. Donc ça, ça sert de base après aux pays pour pouvoir adopter leur réglementation et appliquer leur système de contrôle des aliments de façon harmonisée. On a également des comités d'experts qui se penchent sur des problématiques spécifiques, par exemple des salmonelles dans le poulet ou de l'histamine dans certains poissons, etc. Donc on évalue les dangers et toutes ces informations permettent après de fixer des réglementations qui sont à la fois bonnes pour protéger la santé des consommateurs et qui ne sont pas inutilement restrictives sur le plan du commerce. Et puis au-delà de ça, on a tout un tas de programmes sur le terrain où on aide justement, on donne une assistance technique aux différentes catégories d'acteurs pour renforcer ou pour améliorer leur participation dans la sécurité sanitaire. Mais on donne aussi de l'appui à des producteurs en leur permettant de déterminer où peuvent être les risques les plus importants, à quel niveau de la chaîne, appliquer les méthodes les plus utiles pour pouvoir maîtriser ces dangers et puis aussi aider à faire des campagnes d'information, que ce soit de différentes catégories, par exemple de producteurs, mais aussi les consommateurs, pour que justement les consommateurs soient informés et puis qu'ils comprennent un petit peu le rôle qu'ils ont à jouer dans un système national de contrôle des aliments.
C'est relativement complexe tout de même, hein, n'est-ce pas?
Disons qu'il y a une intégration permanente des derniers développements de la science dans des approches qui sont finalement des approches mises en œuvre par les gouvernements, par les entreprises depuis des décennies, voire parfois des siècles. Sauf qu'il faut ajuster ça parce que le commerce des aliments, il change rapidement. On est aujourd'hui dans un commerce globalisé avec des ingrédients qui viennent d'un peu partout, des aliments qu'on n'a pas toujours connus dans notre système alimentaire. Donc notre monde est devenu plus complexe et puis la prévention, le maintien de la sécurité sanitaire des aliments aussi. Et puis je crois que la demande a beaucoup augmenté ces dernières années. Les gens sont de plus en plus conscients et donc il y a de plus en plus de pression à la fois sur les producteurs mais aussi sur les États pour pouvoir protéger la santé des populations.
Oui, je pense qu'il y a une telle demande pour nourrir la population qui grandit que des fois peut-être certaines normes peut-être risquent de ne pas être respectées pour cette sécurité sanitaire, n'est-ce pas?
Alors, c'est une tension apparente, effectivement, entre l'impératif de nourrir en termes de quantité et donc essayer de se dire, bon, bah, on va peut-être fermer les yeux un petit peu sur les problématiques parce que sinon, on va manquer d'aliments. Et en fait, ce que nous, on essaye de dire au gouvernement, c'est qu'il faut dépasser cette contradiction apparente par le biais de la prévention. Donc, l'idée, là, c'est plutôt de renforcer cette idée que tout se joue en termes de prévention. C'est de dire, on met en place tout un tas de méthodes et d'approches qui permettent que, in fine, les aliments qui sont produits et mis sur le marché ne sont pas contaminés parce qu'ils ont été bien gérés depuis le début.
Un monde fin zéro ne peut être atteint que si les aliments consommés sont sans danger. Et de plus en plus, les consommateurs souhaitent aujourd'hui en savoir plus sur leur nourriture. Cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est donc l'occasion de nous assurer que la sécurité alimentaire est bien l'affaire de tous. Et c'est ainsi que se termine cette édition d'Escale consacrée à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Merci à Catherine Bessy, spécialiste en matière de sécurité sanitaire des aliments à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.